Capital, une émission proposée par Elisabeth Couget sur les ondes de Radio Grand Ciel et présentée en compagnie de Christina Fota. Zdravstvuyte, Christine.
Zdravstvuyte, c'est-à-dire bonjour, Elisabeth.
Alors, si vous avez un petit peu de connaissances linguistiques, vous avez peut-être deviné qu'aujourd'hui, nous prenons la direction de la Russie.
Et précisément, direction Saint-Pétersbourg.
Alors, qui n'est plus la capitale de la Russie de l'an 2000, mais l'a été durant plus de 200 ans et jusqu'à la révolution d'octobre de 1917.
Une autre fois, rassurez-vous, nous irons à Moscou, une ville magnifique.
Ben, qui n'a pas, peut-être qu'il n'a pas même passé, historique peut-être, hein, mais certainement aussi intéressant que Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, découvrons la ville de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg à l'origine. Ensuite, Petrograd, c'était la version russifiée en août 1914, qui veut dire la ville de Pierre, devenue Leningrad à la mort de Lénine en 1924. Est redevenu Saint-Pétersbourg depuis 1991.
Ah, il faut suivre tous ces changements. Et le drapeau rouge, frappé de la faucille et du marteau, a disparu et a été remplacé par les trois couleurs russes, bleu pâle, blanc et rouge.
Saint-Pétersbourg a célébré ses 300 ans d'existence en 2003, en grande pompe au milieu de tous les grands de ce monde.
Car c'est en 1703, donc il y a 300 ans, que le tsar Pierre Ier, que plus tard on a surnommé Pierre le Grand, a décidé de construire sa ville dans le golfe de Finlande.
Cette ville a cultivé pendant longtemps le mythe romantique de la cité surgie du néant. Alexandre Pouchkine, un siècle et demi plus tard, voyait le grand tsar face à cette entreprise titanesque ainsi. Debout sur une grève déserte, il méditait ses hauts projets. Là, sur les bords marécageux, sous un ciel sombre et nuageux, il se disait « À cette place, une ville va se dresser comme une vivante menace à qui voudrait nous abaisser. La nature doit nous permettre ici percer une fenêtre sur l'Europe. »
Et comme c'est beau, Pouchkine parlait de la nature, mais la nature n'était pas vraiment clémente dans ce golfe de Finlande.
Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il faut savoir que la Neva, le fleuve de Saint-Pétersbourg, tient son nom du finlandais Neva, qui veut dire marécage. Donc la construction de cette ville n'était pas une mince affaire. Comme Amsterdam et Venise, auxquelles on la compare souvent, Saint-Pétersbourg repose sur un terrain gorgé d'eau et ses fondations sont faites d'énormes pilotis. On peut juste souligner la volonté extraordinaire d'un seul homme qui a réussi cette prouesse.
Il y avait des habitants dans cette région auparavant.
Oui, bien sûr. Et cette région s'appelait Ijorie. Et ses habitants, les Ijoriens, qui subissaient régulièrement les invasions des Finnois, des Caréliens, des Russes et des Suédois. Les Vikings aussi qui s'y établiront au 9e siècle en créant la principauté de Novgorod. À une nouvelle attaque des Suédois en 1240, le prince Alexandre de Novgorod va les repousser jusqu'à la mer Baltique. Ce glorieux fait d'armes lui vaudrait le surnom d'Alexandre de la Neva, en russe, Nevski.
Alexandre Nevski.
Exactement. Et il était canonisé par l'Église orthodoxe, devenu Saint Alexandre Nevski, qui il a beaucoup, beaucoup inspiré Pierre le Grand.
Et donc le delta de la Neva est devenu russe tout de suite.
Oh non, pas exactement, parce qu'il fallait encore attendre environ 250 ans. Et de nombreux conflits avant son annexion à la Russie unifiée en 1478, donc à la fin du XVe siècle. Une nouvelle tentative suédoise va encore ébranler cette région, mais Pierre Ier chassera les envahisseurs. Il n'a à l'époque 31 ans et il entreprend la construction de sa future capitale.
Et nous sommes en 1703, le 29 juillet exactement. C'est le début de la réalisation de la forteresse nommée Saint-Pétersbourg, qui sera la base de la ville.
Alors que Pierre le Grand a construite, le chantier fut mené tambour battant et 9 ans plus tard, Saint-Pétersbourg devient la capitale officielle de la Russie. À la mort du tsar, son épouse Catherine Ière, son petit-fils Pierre II et sa nièce Anna et puis sa fille Elisabeth lui succéderont. C'est à elle que la ville doit une seconde phase de développement.
Le long règne d'Elisabeth permet de mener à bien plusieurs projets laissés en jachère depuis la mort de son père, Pierre le Grand.
Eh oui, Elisabeth n'a pas de descendance, Elle confiera donc le trône à son neveu, Pierre, jeune homme, falot, élevé en Allemagne dans la religion luthérienne, et ça pose un problème en Russie. Elle lui donnera pour épouse Sophie, jeune princesse allemande, qui fera tout pour devenir impératrice, jusqu'à se convertir à la religion orthodoxe, et changera de prénom. Elle deviendra Catherine, comme l'épouse de Pierre le Grand.
Et c'est cette Catherine qui deviendra Catherine II, la grande Catherine.
Alors elle sera une souveraine despotique mais éclairée qui va rénover la société russe et sa capitale. Son règne verra l'arrivée des droits civiques, le progrès de la scolarisation et la socialisation, la réalisation de grands projets architecturaux et urbanistiques à Saint-Pétersbourg et même dans les provinces. Conseillée par Voltaire et Diderot qui étaient ses amis, Catherine deviendra une collectionneuse d'art passionnée. Elle va créer le musée de l'Ermitage, l'Institut Smolny, la Poste, la bibliothèque, tous ces endroits qu'aujourd'hui nous visitons, et mènera en même temps une politique étrangère très ambitieuse.
Bref, c'était vraiment la grande Catherine. Mais l'arrivée des nouvelles de la Révolution française l'ébranle, car elle craint les idées révolutionnaires.
Ah, exactement. Mais il faudra encore attendre 125 ans pour que la Révolution d'octobre détruise toute cette vie de douceur et de privilège, pour certains. Entre-temps, il y a eu des révoltes, des attentats contre le pouvoir et même des tsars assassinés, ce qui a ébranlé le pouvoir. Jusqu'à l'arrivée à la Révolution, et ça va être la fin de la dynastie des Romanov.
Mais Saint-Pétersbourg, la ville immuable, a survécu à tout ça, et même au communisme, quoiqu'elle ne fût plus la capitale de la Russie. De l'URSS.
Oui, c'est ça, n'oublions pas. C'était une époque. C'est Moscou qui deviendra la nouvelle capitale, tandis que Saint-Pétersbourg, ou plutôt Petrograd, deviendra Leningrad en 1924 et le restera durant presque 70 ans. L'armée allemande a considérablement détruit la ville et ses environs durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été minutieusement restaurée et en 2003, lorsque démarraient les festivités du tricentenaire, c'est la renaissance de Saint-Pétersbourg que l'on célébrait en même temps.
Et c'est cette merveilleuse Saint-Pétersbourg que nous nous proposons de vous faire découvrir dans la suite de notre émission.
Alors en attendant, écoutons un peu de musique russe, bien entendu.
Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, и полететь бы мне за вами, душу бы развеять от тоски. Да.
Pause musicale, nous avons fait un résumé sur l'origine et l'historique de Saint-Pétersbourg, cette capitale dont les nuits blanches font rêver.
C'est à quel moment les nuits blanches ?
Alors depuis la fin du mois de mai jusqu'à la mi-juillet, la ville connaît une période de plusieurs semaines pendant lesquelles le soleil ne se couche pratiquement jamais et vit baignée dans une lumière quasi réelle où les journées n'en finissent pas.
La période préférée bien sûr des touristes, les journées sont si longues.
Et durant deux fois plus longtemps, donc ils en profitent, hein, n'est-ce pas mieux? Profitons-nous aussi d'une des longues journées pour commencer la visite en se promenant sur la rive gauche de la Neva et partons du palais d'été au palais d'hiver. Le palais d'été ainsi que son jardin portent l'empreinte de Pierre le Grand.
Un très grand palais.
Alors c'est un palais d'été, mais non, il n'est pas grand, puisque le palais d'été de l'empereur Russie est une maison de 12 pièces et fait fait penser finalement à une honorable demeure hollandaise. C'est une des premières constructions à avoir utilisé la brique, qui était un des symboles du désir d'occidentalisation de la Russie de l'époque. Même si le mobilier réalisé de la main du grand tsar a disparu, les chambres, les domestiques et le pont de l'embarcadère révèlent la marque de fabrique de l'homme qui était Pierre le Grand.
Et le jardin ?
Alors, ce jardin du palais, c'est Pierre le Grand qui l'a conçu comme un grand livre de botanique ouvert pour l'éducation et l'initiation des Russes à la culture des cours européennes de l'époque.
Et aujourd'hui, ce jardin ressemble toujours à celui qu'a pu admirer Pierre le Grand ?
Bien, en dépit des multiples changements survenus au cours de l'histoire, le jardin a conservé son charme paisible et romantique.
Alors, je regarde le plan de la ville et je vois que nous allons longer le Champ de Mars. Tiens, comme
oui,
à Paris.
Christine, merci de nous servir de guide dans cette ville qui est assez grande. Et voilà, le Champ de Mars est un espace assez vaste, vert, planté de lilas et quadrillé de larges allées. Pierre le Grand y fit tirer un spectaculaire feu d'artifice pour célébrer une de ses nombreuses victoires contre les Suédois.
Et après cette promenade sur le Champ de Mars, allons visiter le palais de marbre.
Oui, alors la grande Catherine avait de nombreux amants. Pour l'un d'entre eux, le comte d'Orloff, elle a offert le plus riche palais jamais construit jusque-là. Réalisé par le grand architecte Rinaldi, c'est la statue massive du tsar Alexandre III qui accueille les visiteurs dans la cour d'honneur du palais et qui tient son nom. Ce palais des 32 variétés de marbre utilisées pour sa décoration, ainsi que plusieurs sortes de granit et de pierres semi-précieuses.
Ah, waouh! Et quittons un peu maintenant les quais de la Neva pour prendre une rue parallèle, quel curieux nom, la rue des millionnaires.
Oui, exactement. Et même en russe, ça ressemble à sa millionnaire. Mmh. Cette rue relie le palais d'été au palais d'hiver. Elle regorge de grandes demeures car au XIXe siècle, elle a été investie par les plus grandes familles de la noblesse russe. J'en signale quelques-unes, comme par exemple la maison des apothicaires ou le palais du prince Poutiatine au numéro 12. C'est très important puisque c'est dans cette maison que le grand-duc Michel, le frère de Nicolas II, qui était donc le dernier tsar, en abdiquant, a mis fin au long règne de la dynastie des Romanov le 3 mars 1917.
Ah, nous voici arrivés au palais d'hiver, voilà l'ermitage. Passons donc par la place du palais et ce magnifique arc de triomphe.
Alors, la place du palais est un espace semi-circulaire et c'est un lieu chargé d'histoire, théâtre de parades militaires, de réjouissances populaires, mais aussi d'émeutes sanglantes et de massacres. Témoin du Dimanche Rouge et de l'assaut du Palais d'Hiver en 1917. Aujourd'hui, la place est remplie de promeneurs.
Ce qui ne nous empêche pas quand même, Elisabeth, d'avoir une pensée émue pour tous les drames qui y sont passés.
Oui, c'est vrai, c'est inévitable, mais j'avoue qu'une fois l'intérieur du palais émerveillé par tout ce qui nous entoure, nos pensées abandonnent la place et les malheurs, et on est capté par le faste extraordinaire, le Palais d'Hiver et les ermitages. Le petit et le grand ermitage restent l'emblème de la grandeur impériale russe.
Et c'est Pierre le Grand qui a fait construire ce palais d'hiver ?
Non, c'est sa fille Elisabeth au XVIIIe siècle. Le palais d'hiver a détrôné, si on peut dire, le palais d'été, car deviendra et restera la résidence principale des tsars jusqu'à la Révolution d'octobre.
Et quelles sont les dimensions de ce palais ?
Alors c'est énorme, mais sans vouloir vous abreuver de chiffres, on peut dire que chaque façade extérieure dépasse les 200 mètres de longueur et que le palais compte plus de 1000 salles. Un double étage de colonnes blanches rythme les façades de couleur pistache, interrompu par la somptueuse coupole dorée de la grande chapelle impériale.
Mais comment visiter un monument pareil ?
Alors, je crois qu'il faut faire ça avec méthode, oui. Car pour visiter toutes les salles, il faudrait parcourir 11 km. Et des semaines entières ne suffiraient pas pour découvrir les 60 000 objets exposés sur un total de plus de 3 millions qui sont en dépôt.
Je crois qu'il faudrait 8 ans pour tout voir.
Oui, je pense.
Alors que faire pour ne pas perdre trop de temps ? D'autant plus que personne ne pourrait y consacrer des semaines et encore moins des années.
Non, absolument pas. Donc il faudrait sûrement faire des choix. Personnellement, je commencerai par la grande enfilade d'apparat. En y accédant par le somptueux escalier des ambassadeurs, tout en marbre blanc de Carrare. passant par les portes rococo, on traversera des salles aux décors variés, comme la salle des Feldmaréchaux, la salle Pierre le Grand, la salle des Armoiries ou la galerie de la guerre patriotique de 1812.
Et jusqu'à la grande salle du trône, qui est la plus spectaculaire des salles d'apparat.
Et oui, c'est une salle écrasante de solennité en marbre de Carrare, bien entendu, décorée de bronze, son parquet marqueté de 16 essences différentes. Et bien sûr, il ne faut pas manquer de la visite de la Grande Chapelle, où Nicolas II a épousé sa future épouse, l'impératrice Alexandra.
Et encore ?
Alors, on peut encore voir les appartements de Catherine II et de son fils, Paul Ier, remplis d'une quantité impressionnante d'œuvres françaises, dont les Watteaux, Fragonard, Poussin et Chardin.
On ne sait plus où donner de la tête. Mais après ce premier étage, si riche en œuvres d'art, que trouvons-nous au second ?
Alors, on y découvre des néoclassiques, des romantiques et surtout des impressionnistes et post-impressionnistes français, dont de nombreuses œuvres de Van Gogh, Gauguin, Rodin, Picasso, Monet, Matisse et Cézanne.
Sans compter les flamands, Rembrandt, 40 tableaux de Rembrandt, rien que ça.
Voilà. Alors la peinture des écoles italiennes et allemandes de la même époque sont présentes bien entendu, sans oublier la merveilleuse collection d'art asiatique réunie par Nicolas II et son épouse Alexandra.
Elisabeth, si nous voulons garder un peu de temps pour parler encore un peu de Saint-Pétersbourg, il va falloir quitter malheureusement ce palais d'hiver.
Bon, on va essayer de faire vite, mais tu as raison, on ira à la découverte des autres quartiers. Mais je voulais encore dire que l'Ermitage prolonge le palais d'hiver, construit par Catherine II, composé de deux parties, le petit et le grand d'Ermitage. Et le grand est formé de deux, le vieil et le nouvel Ermitage. Le tout est considéré comme le plus grand musée du monde.
Nous quittons donc l'Ermitage et en route pour voir d'autres
D'autres choses encore. Je crois qu'il faudrait dire aussi quelques mots des ponts de Saint-Pétersbourg.
Ah oui, il faut savoir que Saint-Pétersbourg est appelée aussi la ville aux 400 ponts.
Ce qui est normal, n'oublions pas que cette ville est bâtie dans un delta morcelé en une centaine d'îles par 40 bras de fleuve et de nombreux canaux. Sur les 400 dont tu parles, il y en a 135 en ville et certaines en sont vraiment particulièrement spectaculaires. Comme le pont au Lion, le pont de la Trinité, le pont de la Banque, orné de griffons aux ailes dorées, c'est vraiment magnifique. Ou encore le pont égyptien et le pont vert, qui est considéré comme le plus ancien des ponts de Saint-Pétersbourg.
Et quand la Neva est gelée, les ponts sont ouverts.
Absolument.
C'est vraiment très étonnant comme spectacle. Je suggère que maintenant une petite balade sur la belle perspective Nevski.
Alors la perspective Nevski, l'épine dorsale de Saint-Pétersbourg, le haut lieu de sa vie culturelle et sociale. Ce n'est pas une simple avenue, c'est une perspective comme son nom l'indique. C'est un large sillon à travers la ville qui va d'est en ouest. Et la plus grande artère de la ville, sa reine de beauté, comme l'appelait Gogol. Elle est longue de 4,5 km.
Oui.
L'avenue démarre à la laure d'Alexandre Nevski, d'où elle tient son nom. Allez vous y promener, admirez le luxe, l'élégance et les audaces architecturales.
Tandis que nous ferons une nouvelle pause musicale.
Alors, nous venons d'entendre les danses russes de Casse-Noisette, composées par
Tchaïkovski.
Alors, dans cette dernière partie de notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel, il nous reste peu de temps pour pouvoir parler de tout ce qui est encore à voir à Saint-Pétersbourg.
Alors, un mot sur les églises.
Oui, absolument. Commençons par la cathédrale Saint-Isaac, Pierre le Grand est né un 30 mai, jour de la Saint-Isaac. Le grand tsar se fit un devoir de dédier à cet ermite dalmate du 4e siècle une église au centre de sa nouvelle capitale.
Et donc la cathédrale Saint-Isaac est de cette époque ?
Non, pas du tout, parce que la cathédrale d'aujourd'hui est la 4e cathédrale construite au même endroit, à la même place, et date du début du 19e siècle. Haute de 101,50 m, sa coupole dorée domine les toits de Saint-Pétersbourg et se voit à des kilomètres à la ronde. 12 000 fidèles peuvent y entrer. Alors n'oublions pas les constructeurs, parce qu'il y a eu 400 000 ouvriers qui participèrent à sa construction. Sur ce chantier insalubre, beaucoup d'entre eux laissaient la vie.
Et le coût de sa construction dépassa les 23 millions de roubles, 6 fois celui du palais d'hiver.
Alors c'est énorme, parce que la décoration intérieure nécessita des grandes et des quantités inouïes d'or, de bronze, de minéraux précieux, semi-précieux, acheminés de toute l'Europe et de la Sibérie.
Parle-nous de la colombe suspendue.
Alors au centre de la coupole, une colombe en bronze doré, aux ailes déployées d'une envergure d'1,65 m, est suspendue à 80 mètres du sol, qui symbolise le Saint-Esprit, comme tout le monde le sait, bien entendu.
Et devant la cathédrale, une très belle place.
Oui, alors cette place où il y a des choses à voir, entre autres la statue équestre de Nicolas Ier, cette statue intéressante par ailleurs, mais qui n'a vraiment rien à voir avec celle qu'elle essaye d'imiter.
C'est-à-dire ?
Alors, je veux parler du fameux cavalier de bronze sur la place des Décembristes, commandé par Catherine II, réalisé par Étienne Falconet. Pierre le Grand, le cavalier, fièrement dressé au sommet d'un énorme rocher, fixe l'horizon, comme s'il s'apprêtait à franchir la névade d'un bond. Cette statue incarne toute la puissance monarchique que Nicolas Ier tentait toute sa vie à imiter.
Pourquoi ce nom, tu as dit place des Décembristes ?
Alors ce sont des jeunes aristocrates et des officiers, partisans d'une réforme libérale, veulent soulever l'armée contre l'accession au trône de Nicolas Ier qui promettait déjà des problèmes. Le 14 décembre 1825, 80 insurgés sont massacrés sur cette place, plusieurs en furent pendus et beaucoup déportés en Sibérie. C'est en hommage à ces conjurés que la place a été nommée ainsi.
Et peut-être que la révolution d'octobre était déjà
prémisse, certainement.
Voilà. Je suppose qu'il y a d'autres églises à visiter.
Oui, alors par manque de temps, je n'en citerai que 3 ou 4 encore. Notre-Dame de Kazan en est la première. Et elle est merveilleuse et extraordinaire avec sa vaste colonnade en hémicycle. Elle est le chef-d'œuvre du style empire dans l'art et l'architecture russe.
Et qui l'a fait construire ?
Alors c'est Paul Ier, le fils de Catherine II, qui a entamé sa construction, qu'il voulait que sa cathédrale ressemble à Saint-Pierre de Rome, d'où la grande colonnade qui nous accueille. Après 75 ans de communisme, elle a été rendue au culte le 31 décembre 1999 et l'icône sainte et miraculeuse de la Vierge, qui a donné son nom à la cathédrale, a repris sa place, mais seulement en 2001. Alors la lumière des cierges et les chants orthodoxes donnent à ce lieu une atmosphère recueillie. La cathédrale est également un mémorial de la guerre de 1812, victorieuse face à Napoléon.
Eh oui. Et alors il y a aussi une église qui porte un nom curieux, l'église dite du Sauveur sur le sang versé.
Alors c'est une extraordinaire construction multicolore et scintillante, appelée aussi l'église de la résurrection. Bâtie à la mémoire du tsar Alexandre II, assassiné à l'emplacement même de cette église en style russo-byzantin. Alors elle rappelle donc la cathédrale
Basile à Moscou.
Oui, exactement. Ces murs sont couverts de mosaïques polychromes aux thèmes religieux.
Et que s'est-il passé durant la dictature communiste pour ces églises ?
Alors, comme bien entendu, elles étaient toutes fermées, mais en ce qui concerne l'église de la Résolution, en 1930, elle a été fermée donc, et plus tard transformée en musée, et elle a été réouverte comme telle, comme musée, en 1997.
Peut-être veux-tu encore nous parler d'une autre église, non ?
Oui, peut-être encore de deux, parce que d'abord Saint-Nicolas des Marins, qui est une ravissante cathédrale baroque au teint bleu pâle dédiée au Saint-Patron des Marins. Elle fonctionne sur 2 niveaux. Il y a l'église inférieure aux voûtes appuyées sur de larges piliers qui est à peine éclairée par les cierges et quelques lampes à huile. Elle est ornée d'innombrables icônes et accueille les offices quotidiens. Quant à l'église d'Épiphanie, qui est au niveau supérieur, est plus claire, plus spacieuse et possède un iconostase bleu et or aux colonnes sculptées de guirlandes. L'ensemble est vraiment un enchantement. C'est magnifique.
Magnifique. Et puis encore un mot sur la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul.
Alors, voilà. Pour la dernière église que je vais vous citer, il s'agirait donc de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, dont il est impossible de manquer la flèche dorée au centre de la forteresse du même nom. Cette basilique est à la fois un point de repère et un emblème aussi de Saint-Pétersbourg.
De la Neva.
Ah
ça,
oui, exactement.
Hein, voilà, exactement.
Ça domine.
La flèche est surmontée d'un ange qui porte une croix et qui culmine à 122 mètres.
Alors, ce qui rend l'édifice et le bâtiment le plus élevé de la ville.
Exactement.
Alors, depuis 2002, et après plusieurs décennies de bons et loyaux services consacrés à l'hymne soviétique, les cloches de la basilique résonnent de nouveau du son de la musique religieuse et de l'hymne russe. Son intérieur est somptueux. On y trouve les tombes des Romanov, dont celles de Pierre le Grand et de la Grande Catherine, et depuis 1998, les restes du corps de Nicolas II et ceux des siens assassinés à Yekaterinbourg. Ils y reposent aussi.
Rappelons quand même que Lénine, quoique révolutionnaire, a tenu à conserver absolument intactes ses églises.
Oui. Et heureusement que les autres, dans la suite, l'ont laissé.
On l'a laissé également. Elisabeth, peut-être, parle-nous quand même, très important, la forteresse Pierre et Paul.
Alors, c'était la première réalisation de Pierre le Grand.
En 1703.
Exactement. Construite sur un îlot. Et elle rappelle les Kremlins de la Russie médiévale, qui veut dire des citadelles fortifiées, ceintes de murs, infranchissables, comprenant une cathédrale, une prison et une garnison.
Tout ce qui est nécessaire dans la vie.
Absolument. Alors, cette forteresse construite dès 1703, donc dès le début, il commençait par ça, est le berceau de la Russie moderne.
Nous n'avons pas encore parlé de l'amirauté.
Alors, l'amirauté, c'est très important. Ça domine la ville de sa haute flèche dorée. L'amirauté est le point de convergence de trois artères.
Trois grandes artères, dont la grande perspective Nevski.
Et oui, c'est inévitable, la perspective Nevski. L'amirauté symbolise l'accession de la Russie au rang de puissant maritime. À l'origine, elle était un chantier naval fortifié, créé en 1704.
Et le célèbre croiseur Aurore vient de ce chantier naval.
Oui, mais en fait, c'est celui du nouveau qui l'a remplacé, puisqu'il y en a un qui s'appelle le Nouvel Amirauté. L'Aurore, donc, le croiseur amarré, attend les touristes, 30 millions rien qu'en 2006. Le croiseur qui, en 1917, donna le signal de la Révolution, aujourd'hui, a transformé en musée et fait partie des trois plus grandes attractions touristiques de la ville. Alors Christine, tu connais le Menchikov ?
Oui, bien sûr, cette délicieuse friandise de Chartres. Je crois que c'est le prince de Menchikov qui, en venant à Chartres, eh bien, on a fait pour lui ce bonbon au chocolat.
Cette sucrerie, voilà. Alors juste un mot d'Alexandre Menchikov. Fils d'un valet d'origine polonaise, il était l'ami intime de Pierre le Grand et le tsar lui a fait construire le premier bâtiment de pierre de Saint-Pétersbourg. Menchikov, après une fulgurante ascension, tomba en disgrâce et a fini en Sibérie. Par contre, son palais, devenu un super musée, est ouvert aux touristes.
Et puis, alors, une petite visite, n'oublions pas l'Institut Smolny.
Ah oui, la fameuse Institut Smolny où Lénine est arrivé. Donc, les communistes trouvaient cet endroit très important. Mais en fait, l'Institut et sa cathédrale, peinte en turquoise, étaient construits par Catherine II à l'intention des jeunes filles de la noblesse, un peu comme Saint-Cyr près de Versailles. Aujourd'hui, devenu aussi un musée, et c'est un joli but de promenade avec son beau jardin.
Et Saint-Pétersbourg est aussi connu pour la musique et le théâtre.
Alors, avant de quitter Saint-Pétersbourg, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle, puisque Saint-Pétersbourg est le berceau de quelques chefs-d'œuvre du répertoire classique. Le légendaire théâtre Mariinsky, qui durant l'ère soviétique s'appelait Kirov, à la mémoire d'un communiste tué, a retrouvé sa brillance d'antan et... Si vous avez la possibilité, allez-y voir un ballet.
Oui, absolument, c'est magnifique. Et puis, peut-être pas très très loin, même tout près, la ville de Tsarskoïe-Selo vaut le détour.
Alors, Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui se veut capitale du Nord, capitale de culture, capitale maritime de la reçue. Mais pour les visiteurs que vous serez, j'espère, ça serait la découverte de la capitale de l'Empire des Romanov. Et malheureusement, on est obligé de vous dire
bon voyage dans la ville du Nord.
Alors, da svidaniya, Christine.
Da svidaniya, Elisabeth.
Полечка широко поле, едут по полю герои, эх, до Красной Армии герои, девушки плачут.